Bonsoir, c'est Bang Bang.
C'est Bang Bang.
Bonsoir.
Et on est dimanche. On a pris nos clics et nos claques. Et on est parti. Dimanche. Voilà. C'est mieux ou c'est pas mieux?
Mais moi, je trouve que c'est mieux parce que c'était. Ça devait arriver qu'on passe le jour du Seigneur.
Oui. Après, c'est plus cosy, je dirais.
Après la messe, un petit bang-bang.
Après 5 ans. Donc voilà, ça nous va bien.
On espère que les auditeurs seront plus réceptifs, ils auront plus de temps, ils seront pas, je sais pas où, moi, dans quel backroom.
Au sommaire, Sébastien.
Au sommaire, aujourd'hui, pour ce premier numéro de la rentrée, un petit connaissance et bigoudi spécial pouvoir d'achat. Et ça a été dur pendant l'été, au niveau fric.
Ah bah oui.
J'ai trouvé pour vous une petite solution, job. Polyamour, les partenaires multiples sortent de l'ombre, il était temps. Et c'est Tanguy qui nous en parlera tout à l'heure avec deux invités. Polyamoureux, évidemment.
Bang bang, welcome la fête.
On va retrouver Tanguy et ses invités. Il a invité ce soir Sophie et Philippe qui sont donc des polyamoureux.
Des polyamoureux, Tanguy. Parce que voilà, cette saison, on vous parle du polyamour. Alors, peut-être que certains auditeurs en auront déjà entendu parler et on a déjà parlé des relations multiples ou des partenariats multiples à quelques reprises dans Bang Bang. Mais ici, il y a vraiment une volonté cette saison, cette année, de rendre visibles des pratiques qui sont souvent assimilées au libertinage ou à l'échangisme, alors que c'est un peu différent. Et il y a une volonté aussi de parler d'amour là où tout le monde ne voit que du sexe.
Ah.
Il n'y a pas que le sexe dans la vie, il y a aussi l'amour.
Enfin, et c'est toi qui dis
moi,
ça.
Mais non, mais moi je présente les choses, hein, ça ne reflète pas nécessairement mon avis. Alors donc plusieurs séquences seront consacrées à ce sujet qui est vraiment un vaste sujet tout au long de la saison. Et donc ce soir nous avons deux invités, Philippe et Sophie. Mais avant d'en parler, avant de dire ce que c'est que le polyamour avec nos invités, moi j'avais envie de vous dire ce que ce n'est pas. Alors le polyamour d'abord c'est pas un nom poétique créé juste pour éviter de prononcer le mot partouze. Le polyamour, c'est pas non plus entretenir un harem en changeant de partenaire tous les jours, comme on changerait de slip, par exemple. Le polyamour, c'est pas non plus le partage, un peu comme quand au sauna, vous laissez quelques papis vous tripoter en vous disant qu'un jour, vous aussi, vous serez peut-être vieux. Le polyamour, ce n'est pas non plus comme le règlement des conflits par le sexe chez les bonobos, vous savez, les chimpanzés. Quoique, ça peut s'y apparenter, parce que c'est vrai que si tout le monde vivait dans des relations polyamoureuses, je pense que...
Le monde irait mieux.
Mais il y aurait beaucoup moins de guerres.
Et moins de pollution.
Voilà.
Et moins de films et moins de romans.
Exactement.
Hein, ce serait moins bien.
Oui, ce serait moins bien. Ouais.
Ou d'autres films.
Oui, voilà, c'est ça. Alors le polyamour, ce n'est pas non plus dire « je t'aime » à chaque one-shot. Et enfin, le polyamoureux, mais ça c'est un jeu de mots débile, ce n'est pas non plus quelqu'un qui dit bonjour avant et au revoir et encore merci après l'amour.
Où était le joli mot,
ben, le polyamoureux.
Fantastique.
Je suis désolé.
Excuse-moi Tanguy, mais vraiment.
Non, mais je disais que quelqu'un ne comprendrait pas, mais.
Mais je n'ai pas compris.
Bon voilà.
Moi je pensais que le polyamour c'était l'amour de Polly, le petit cheval.
Ah aussi.
Oui, vous connaissez le Polly, cheval
c'est
Polly.
Avec deux, oh, oui. Mais c'est avec deux L. Hein.
Vous vous souvenez, hein, Sophie, oh, oui. Vous êtes aussi que moi. Hein.
Exactement. Polly, Polly, Polly.
Ça part de ma culture.
Voilà,
aussi,
voilà. Ouais. Je pensais que c'était l'amour du petit cheval Polly.
Eh bien non. Alors maintenant, on va vraiment dire ce que c'est, hein, parce que. Plus sérieusement,
parce qu'il est temps.
Mais oui, et puis plus sérieusement, en fait, la fidélité, l'engagement, la responsabilité, la confiance, toutes ces choses qu'on entend toujours dans les beaux discours au mariage, prennent un sens nouveau et souvent bien plus profond quand il s'agit de polyamour. Et c'est pourquoi, Philippe et Sophie, dites-nous ce que c'est que le polyamour. Est-ce qu'il y a une définition? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a plusieurs formes de polyamour?
Bah moi, je prendrais peut-être Philippe, l'exemple. Hein. Oui, voilà, j'ouvre le feu un peu. Bon, une maman va dire à son enfant, tu as une amie, c'est bien, tu as une grande amie, c'est chouette. Et puis, quand l'enfant grandit, quand il est un peu plus à l'aise dans la société, on va lui dire, mais tu sais, c'est bien quand même d'avoir une deuxième amie, parce qu'elle peut peut-être partir, et puis tu as peut-être beaucoup d'amour à donner, comment on va faire, quoi. Donc, il y a quand même une préparation à l'idée du partage de l'amour. Évidemment, on ne parle pas du même amour. On dit un peu la même chose dans le domaine de l'amitié. Donc l'amour de la maman aussi vers son enfant. Donc ça, c'est avoir un enfant, c'est bien. Et puis on risque d'en faire un petit enfant un petit peu surprotégé. Donc on va dire au papa, ben on va essayer d'en faire un autre. Et puis la famille s'agrandit. Donc si on part un peu de cette idée là, c'est un peu dans ce sens là. C'est-à-dire qu'à mon avis, on nous baigne dans cette idée là en fait que ben on aura tout avec une personne, quoi. Hein, ce sera le bon amant, le bon mari, le bon confident.
C'est une éducation qui fait que ça ne nous mène pas du tout au polyamour.
Et puis, je pense que la société peut accepter le polyamour si c'est, par exemple, des partages d'amour platonique. On va dire, j'ai une relation principale affective avec l'intimité, et puis j'aime 5-6 personnes, mais vraiment, c'est un terrible amour, mais il n'y a pas de consommation.
Des vrais amis,
oui.
Comme on dit. Des vrais amis.
Et donc,
sur le doigt d'une main.
Voilà. Ouais, c'est un peu, voilà, 2-3 mots d'introduction.
À partir de quand on peut vraiment parler de polyamour? Est-ce qu'il y a une définition? Est-ce que, parce que ce terme, bon, il est assez récent quand même.
Il y a une définition de polyamour.
Oui, il est assez récent. Et puis en même temps, bon, on le voit apparaître dans les années dans les 60 déjà. Mais, donc oui, en fait, je pense que la communauté anglophone est assez avant-gardiste. Moi, je vais voir des forums au Canada où les gens se rencontrent, les gens expliquent. Ils en sont déjà à des niveaux intéressants. Ils se disent, tiens, comment on fait quand on a des enfants et qu'on a une famille principale et qu'on veut tout doucement investir dans une autre relation un peu plus longue, de longue durée. Et on a aussi François Saint-Père, qui est quelqu'un d'intéressant en France, qui est écrivain. Il y a eu un film qui a été fait par une Canadienne où elle explique un petit peu qu'il y a des relations principales, des relations secondaires. Il y a des gens qu'elle voit 3 fois par an, il y en a d'autres qu'elle voit tous les 15 jours.
Et vous, Sophie et Philippe, vous êtes quoi? Vous êtes un couple? Vous êtes le couple de base?
On est le couple de base. Donc on s'est connus il y a 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on vit ensemble.
Ok.
Et assez vite, en fait, on s'est dit, je crois que ça faisait seulement 3 semaines qu'on se connaissait, on s'est dit un jour, mais si on est attiré par quelqu'un d'autre, j'ai pas envie de te perdre. Donc déjà très tôt, on s'est dit que ça nous arriverait peut-être un jour d'avoir des expériences avec d'autres personnes, et on était déjà sortis, ou on n'est jamais rentré dedans en fait, d'une idée d'exclusivité. Et moi, ce que j'avais envie de dire par rapport à la définition du polyamour, je trouve qu'on est quand même dans une société, dans une époque où presque, il y a une majorité de polyamoureux, mais c'est pas des polyamoureux parce que c'est des couples successifs. Voilà, je vis 10 ans avec une personne, ça ne marche plus, on ne sait pas, hop, et 6 mois après, 1 an, 2 ans après, je revis. Et quelque part, moi j'ai envie de me connaître, j'ai envie de m'expérimenter, de m'épanouir, sans pour ça perdre la relation avec Philippe, sans pour ça perdre tout ce qu'on partage de positif entre nous. Et personnellement, dans le polyamour, c'est ça que je vis. Je vis le fait de pouvoir m'engager même au niveau des sentiments avec un autre homme que Philippe, qui est le couple de base, si on peut dire, qui a 20 ans de vie commune.
C'est votre port d'attache.
Voilà, mon port d'attache. Et de pouvoir m'engager aussi dans une relation où j'apprends beaucoup de choses, où je partage beaucoup de choses, où l'autre partage avec moi, mais en ramenant ça dans le couple avec Philippe, en le retenant pour moi, en apprenant des choses pour moi, et en le repartageant après également avec Philippe. Et je trouverais ça dommage de devoir forcément quitter un homme que j'aime pour avoir quelque part l'autorisation, la possibilité de me découvrir dans une sensualité, une sexualité, des sentiments. C'est quelque chose que j'ai pas envie de perdre, quoi.
Et souvent on dit justement que les polyamoureux au fond sont des gens qui savent pas vraiment décider, ou bien qui n'arrivent pas à rompre des relations. C'est des choses qu'on entend parfois. Et puis bon, aussi c'est un idéal pour certaines personnes, ou en tout cas on le présente souvent comme un idéal, alors que en fait, bon, pour vous c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué et qui au fond a des avantages mais aussi des inconvénients, des facilités, des difficultés. Dans votre cas, comment ça s'est passé? Parce qu'au départ vous étiez dans une confiance mutuelle, comme vous l'avez dit, mais bon, on ne trouve pas des partenaires comme ça qui sont un peu dans la même optique, donc comment ça s'est fait?
Ça veut dire que le polyamour est peut-être un peu plus récent, dans une espèce d'acceptation, c'est un peu plus à la mode peut-être, on en entend un peu parler, donc ça rassure, on se sent peut-être un peu moins seul. Ici, il y a quand même 2 magazines en 2008 qui ont sorti des articles à ce propos. Hein. C'était Santé Magazine et puis Trends Tendance.
Avec... Santé Magazine, ouais.
Ma Santé.
C'est sérieux.
Oui, voilà. Donc, avec chaque fois un article pour expliquer. Donc, c'est clair qu'être un petit peu différent, c'est un peu angoissant. Mais tout ça, c'est fait petit à petit. Donc, je pense que c'est une évolution. Moi, je pose la question dans l'autre sens. Je dis, pourquoi est-ce que quand on est amoureux et qu'on rencontre quelqu'un d'autre et qu'on sent qu'il y a des sentiments, pourquoi est-ce qu'on doit dire à l'autre, voilà, tout est fini, tout est foutu, tu reprends ta valise, c'est fini, quoi. Donc, on inverse un peu le processus, en fait.
Parce que dans la notion de polyamour, il y a vraiment cette notion d'aimer plusieurs personnes. Tout à l'heure, tu fais la différence, ce n'est pas des partout, c'est pas
du sexe.
Oui. Il y a quand même vraiment d'aller même au-delà du couple primaire, si on peut dire. dire, d'aller même jusqu'à oser donner des sentiments, oser, on parlait tout à l'heure, j'entendais vous parler de tromper avec de GSM, tout ça. Ici, voilà, eh bien, c'est on ose. Et en plus, bah, pourquoi se le cacher dans la mesure où
c'est compliqué,
on est aussi, hors en fait, d'une idée d'exclusivité, quoi.
Quel est l'état de votre paysage amoureux? Alors, vous, tous les deux, vous êtes ensemble, le couple de base, et puis vous, Philippe, vous cultivez d'autres histoires, et vous, Sophie, vous nourrissez d'autres histoires aussi. Vous en avez combien, dans le fond?
Moi, personnellement, j'ai jamais eu une autre histoire en dehors du couple
primaire. C'est ça.
Oui, une à la fois.
Et Philippe?
Oh, ben c'est un cheminement. Ici, les deux dernières années étaient assez perturbantes parce qu'il y a eu beaucoup de sentiments avec une personne rencontrée. Mm-hmm. Et donc, c'est la découverte, c'est des moments où c'est la poésie qui sort alors qu'on ne s'y attend pas. C'est des choses un peu qui arrivent par un. Je veux dire, ce sont des acquis, ce sont des découvertes. Et je pense qu'il y a vraiment. Donc une personne qui a beaucoup compté. Et il y a eu des moments vraiment d'extase, mais au niveau simplement d'un bien-être et d'avoir l'impression de toucher à quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui est une sorte de sérénité. Et puis il y a eu d'autres moments assez angoissants où j'ai l'impression de rendre deux personnes malheureuses. Et,
c'est ça, parce que
voilà,
c'est pas tout bleu, quoi.
Non, bien sûr. La frustration, j'imagine.
Moi, j'ai pris l'habitude maintenant d'en parler seulement à des gens avec qui je me sens en confiance. Je ne propose pas ça à grand monde, en fait. Mais je me rends compte que assez bien de personnes m'en parlent, parce que beaucoup de gens, j'ai 40 ans, donc sont dans des situations où il y a eu déjà 2-3 histoires, et puis ils se disent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remballe encore pour 10 ans, ou je me remarie, j'achète de nouveau une maison? Enfin, on en est aussi à des réflexions de cet ordre-là. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des couples qui prennent des gros risques, en fait.
Est-ce que vous pensez que c'est un état, idéal, pour le moment, dans votre histoire à vous, ou est-ce que vous pensez que plus tard, vous allez le regretter? Est-ce que c'est pas juste une phase?
Moi, c'est à 15 ans que j'ai su que j'allais aller très loin dans l'amour. Mm-hmm. Je me souviens d'une discussion précise à une fille avec qui je n'ai d'ailleurs aucune relation, même à l'époque, mais c'était vraiment une fille très proche. Et voilà, c'est quelque chose, c'est une sorte d'ancrage, une sorte de. On faisait le lien avec l'adolescence, peut-être, on ne sait pas choisir, peut-être on nous taxe parfois d'un peu
d'immaturité.
Hein, voilà. Oui. Et moi, je dis, pourquoi pas, en fait, ça me dérange pas, en fait.
Ce côté un peu, oui, c'est ça, encore adolescent, encore romantique, quoi.
Parce que je crois que quand on observe l'adolescence aujourd'hui, il bouillonne d'énergie, il bouillonne de vie, de désir, et j'ai l'impression que beaucoup de gens, après 15-20 ans, ont un peu du mal à garder la flamme, et ceux qui y arrivent, je trouve ça super, vraiment.
C'est qu'il y a du désir, mais en même temps, l'adolescence, il y a des relations très, très exclusives et très possessives.
Oui, alors, justement, donc là, il y a une maturité en plus. Je pense qu'ici, Sophie parlait aussi d'une relation qu'elle a pu avoir, et où moi, j'ai pu aussi rentrer dans leur relation, donc c'est intéressant.
Est-ce qu'il y a une série peut-être de règles implicites, puisque vous les avez peut-être, si j'ai bien compris, formulées d'une certaine manière, dans le sens où vous dites quand il y a une autre relation et vous définissez comme la relation de base, la relation principale, ce qui veut dire que vos partenaires amoureux sont une relation secondaire?
Mais je pense est-ce qu'on va mettre un ordre de valeur dans le primaire, dans le secondaire? Ce qui se passe, c'est vraiment une question de sentiment. Alors, est-ce qu'on peut mettre. Moi, quand j'aime, j'aime. Alors, peut-être que je vais prévenir l'autre, que je vais peut-être passer moins de temps avec lui, ou que je vais. Mais je ne peux pas dire je vais aimer plus cet homme-là. J'aime deux hommes, oui, j'aime deux hommes. Et je ne dis pas à Philippe je t'aime plus que lui, je ne dis pas à lui je t'aime plus que l'autre.
Et on prend souvent l'analogie des parents, en fait. Hein. Donc, quand un nouvel enfant naît dans la famille, les parents n'aiment pas moins ceux qui ont précédé. Mm-hmm. Donc, il y a un partage, mais on n'y perd rien.
C'est l'idée de la différence, hein, vraiment.
Mais c'est clair qu'au départ, de toute façon, nos partenaires, on les prévient, on leur dit voilà, je suis mariée je ne compte pas quitter mon. Enfin, comment je préviens, je ne compte pas quitter mon mari. Toi, comment tu te sens par rapport à ça? Je pense que c'est aussi à l'autre à se positionner et à dire bon, écoute, non, ça je n'en veux pas, ou oui, j'ai envie d'essayer, voyons ce que ça peut. Je pense qu'il faut aussi rendre la responsabilité de chacun à chacun. En tout cas, moi, je ne cache à personne que je suis mariée, je le dis toujours, et j'explique ce qu'on vit, et ce qu'on tente, et ce qu'on cherche. Et donc, l'autre, de toute façon, entre dans la relation en connaissance de cause. Ce qui n'empêche pas qu'on va de toute façon l'écouter, le respecter, même si à un moment, il y a des choses difficiles, des limites. Ce qu'il y a aussi, c'est que je pense que le polyamour demande beaucoup de dialogue, demande beaucoup, et finalement, le ciment découpe le, que ce soit le couple de base le plus long, si on veut dire, ou ben ça va peut-être pas être une interdiction, mais plutôt un dialogue. C'est presque une obligation de devoir vraiment être attentif à l'autre, être attentif à soi, être attentif à chacun. Et ça stimule peut-être des choses aussi dans le dialogue et dans le respect de tout le monde.
Gros dossier, hein, Tanguy.
Ah, oui, oui, oui.
Tu as soulevé le dossier de l'année, le polyamour. Clair,
ouais. Alors, vous avez parlé de votre propre expérience de polyamour, qui est celle d'un couple de base, entre guillemets, qui a de partenaires multiples. Mais bon, il existe d'autres formes de polyamour, des relations non exclusives qui peuvent se vivre avec entre 3, 4 personnes, parfois plus. Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont dans ce cas-là? Parce que je pense que vous êtes sur le point où vous avez créé une association, on en reparlera tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui vivent ça différemment? Et si oui, quel type de relation?
Ben jusqu'à présent, non, on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup de personnes autour de nous. Et en même temps, par des lectures, parce que je trouve que c'est assez abondant, par des émissions radio, à la télévision, comment ça va en Suisse, il y a eu un petit reportage dans un magazine sur un couple qui vit ça, c'est un peu expliqué. Donc, non, d'emblée, on ne peut pas dire non, qu'on connaît beaucoup de gens, pas encore. Mais j'ai vraiment l'impression, en allant de nouveau un peu sur le site canadien, qu'il y a dans le monde francophone, il n'y a pas encore de réponse en France, il y a un polyamour.fr qui va ouvrir. Enfin bon, moi je sens que ça bouillonne. Si on lit le livre de Jacques Attali, Amour avec S, à la fin du livre, ben, il explique que dans 40-50 ans, on sera tous plus ou moins là-dedans. Quoi.
Oui, il faut encore attendre longtemps.
Ah, ouais, terrible. Mais les mentalités, ça met du temps à changer.
Surtout la mienne.
D'un autre côté, c'est vrai que maintenant, qu'on vient un peu plus au jour, qu'on commence à en parler un peu plus autour de nous, on sent bien que ça interpelle toujours beaucoup les gens. Et il y a quelques personnes quand même qui délient leur langue. Des gens qu'on rencontre aussi, ah oui, moi, mon copain, ben oui, et voilà, et j'accepte. Et on se rend compte qu'on n'est pas finalement pas si isolé que ça, non, pas si. Il y a quand même pas mal de gens, enfin pas mal, j'exagère un peu, mais il y a quand même des gens qu'on peut rencontrer comme ça qui vivent, sans le nommer polyamour forcément, mais qui vivent des choses différentes en tout cas.
Tanguy, est-ce qu'on peut aussi faire le lien avec ce que les gays vivent depuis des années, avec les couples ouverts?
Oui, mais d'abord, oui, mais on peut faire le lien avec pas mal de choses. Je pense aussi aux relations libres dont on se fait l'idée un peu dans les années 70, etc. Mais il y a quand même des différences, je pense. Il y a des liens, il y a aussi des différences. Parce que quand on parle de relations non exclusives, c'est souvent des gens qui ont plusieurs partenaires, mais il n'y a pas toujours cette dimension de confiance, de fidélité. Mais la fidélité, pas au sens entre deux personnes, mais une fidélité à des engagements qu'on prend avec chaque personne en particulier, pour un temps déterminé ou non. Et ça, je trouve que c'est une autre dimension à la fidélité.
Il y a quand même beaucoup de couples gays qui ont réussi cette équation, non?
Oui, pas mal de... oui,
c'est d'avoir vrai. Un couple premier et puis de vivre...
Moi, je me sens histoire. Proche de ce combat-là, oui. Ouais, je pense qu'en fait, je me sens assez proche du monde homosexuel aussi. D'emblée aussi, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, Sophie, avec la rencontre qu'elle a faite, ben, ça a été moi qui ai été accepté par un autre homme aussi dans leur couple. Et donc, ça a été oser mettre ma main sur le torse d'un homme. C'est pas si simple, en fait.
Pourquoi vous avez vous mélangez les histoires?
Il y a eu deux, trois ouvertures où il y avait cette magie, où il y avait ce bonheur. Oui, il y a eu ce genre de débat amoureux.
Ça veut dire que vous avez été confronté, enfin pas confronté, que vous avez découvert votre reflet bisexuel?
Mais je pense que moi, j'ancre tout ça dans mais ça, j'en parlerai peut-être un peu après, mais bon, on est héritier d'un monde patriarcat, d'un système patriarcat. On est conditionné, mais de nouveau, on a l'impression de découvrir, d'inventer. Et je crois que dans les livres d'histoire, tout n'est pas dit. Moi, je m'intéresse beaucoup aux Celtes, aux Chinois, enfin, à d'autres héritages où on se dit, tiens, à l'époque des Celtes, face à l'impérialisme romain, il y avait un chef des voies romaines et une idée, ben, il y avait des petits clans qui vivaient avec, par exemple, dans les couples des petits clans. Et la femme récupérait ses droits si elle quittait la famille, elle récupérait son héritage. C'était moins sacralisé. Et donc aujourd'hui, je condamne un petit peu ça. Et donc, le polyamour, pour moi, c'est pas forcément non plus du poly monogame, quoi, en fait.
Oui, c'est ça.
Mais ça ne doit pas être fermé. Parce que dans la langue française, on a le mot amour, on a le mot amitié. Et en fin de compte, entre les deux, il n'y a pas beaucoup de mots. Et donc, moi, ça me gêne et je pense qu'on va en inventer d'autres.
Bah oui, c'est ça, on est toujours un peu bloqué par les mots, mais oui, c'est clair que les pratiques précèdent.
On est dans l'ordre des amitiés permissives, par exemple. Il y a des gens qui réfléchissent. Il y a le CLAC, qui est un comité anti-couple qui existe. Bon, c'est des gens étonnants.
Un comité anti-couple,
c'est étonnant.
On va explorer ça.
On va sur un infokiosque sur Internet. Beaucoup. ils sont très engagés. Ils disent, on ne veut plus de couple autour de nous.
Ça veut dire que votre démarche, si vous en parlez publiquement et tout, votre démarche intime, elle a aussi une dimension politique.
Voilà, moi je suis assez ancré dans cette idée-là, que tout se tient et qu'on nous fait croire un tas de choses. Capitalisme, monothéisme, patriarcat, bon, c'est la colonne vertébrale qui soude un petit peu le système. Et je pense que si on va dire aux gens, attention, la femme peut être libre, parce qu'on va quand même en parler un peu de ça aussi, l'homme, on le sait quand même qu'il est libre chez nous, même s'il peut camoufler, il ne sera pas trop condamné. Je crois que tout se joue aujourd'hui, ce sont des femmes qui inventent le polyamour, même Michel Onfray dit qu'être un philosophe hédoniste, il faut être féministe. Donc je veux dire, il y a une dimension en plus qui est dans une espèce d'acceptation de lâcher prise sur quelque chose qui va de l'ordre du père fait un fils à sa femme pour donner son héritage. Donc on est là-dedans. Mais si on fouille le passé, d'ailleurs, voilà, les Inuits, là, c'est Jacques Attali qui le raconte, ils s'échangeaient des enfants entre tribus contre des objets pour éviter les guerres, quoi, entre les clans. Donc au Tibet, il y a la polyandrie. Voilà. Mais ça, de nouveau, en Occident, on est toujours un peu fermé sur nous. On croit qu'on invente tout.
Un tout petit peu.
Quand vous parlez de lâcher prise, est-ce que le fait de vous dire qu'il y a quelqu'un d'autre et que ce soit quelque chose apparemment qui est établi entre vous, c'est pas plutôt quelque chose qui contrôle l'intimité de l'autre plutôt que d'être dans lâcher prise, puisque à partir du moment où on a une aventure et qu'on ne la dit pas, on vit quelque chose de soi à soi sans le partager avec l'autre, tandis que si on le dit à l'autre, il a un contrôle sur ce qu'on vit et donc il a un peu plus pris sur son intimité.
Moi, je ne crois pas. Moi,
son intimité.
Je parle plutôt d'autonomie affective. Les angoisses, elles seront là dans tous les systèmes. Le contrôle, oui. Et puis en même temps, c'est très progressif. Je veux dire, bon, nous, c'est 20 années. Au début, j'ai eu peur, bien sûr. J'ai même été voir le premier ami de Sophie il y a 15-16 ans. J'ai été pour lui casser la gueule et puis on a discuté une demi-heure. Et puis je lui ai serré la main et puis je suis parti. Et puis je me suis dit, bah, oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de quitter ma femme pour ça. Et il y a eu quelque chose. Et puis il y a eu aussi des rencontres dans des clubs échangistes où bah, c'était découvrir, tiens, c'est quoi? Même si aujourd'hui je m'inscris moins là-dedans parce que je trouve que c'est un peu de patriarcat pour moi, un petit peu. Enfin, il y a un contrôle du couple sur l'autre couple et on peut surtout pas avoir. Donc il y a des règles très. On peut pas avoir d'intimité, on doit pas tout raconter, mais là on doit tout voir et puis on peut surtout pas voir l'autre en dehors.
Puis c'est souvent déséquilibré.
Là par exemple, il y a un grand contrôle dans les clubs échangistes pour moi. Et en même temps, c'était riche de voir un jour. Ma femme me demandait si elle pouvait danser avec un autre homme, et puis tout en sachant qu'il n'y aurait sans doute pas qu'une danse. Mais donc il y avait quelque chose d'assez intéressant. Et donc c'est vrai qu'on peut dire qu'on surfe sur une limite, mais j'ai l'impression d'être vivant. Quoi.
Mais la dimension du contrôle est quand même beaucoup plus présente dans le système patriarcal que tu dénonçais, par exemple dans tout le commerce de la pornographie, même les clubs échangistes qui participent aussi à ce commerce-là. Finalement, ça permet.
Moi, je pense que frustrer la population sexuellement, c'est très rentable. Mmh. C'est 53 milliards d'euros. Internet web porno rose, quoi. Donc c'est énorme, donc ça veut dire que c'est un système qui fonctionne, et si on frustre les gens, généralement ils travaillent mieux à l'usine aussi. Donc tout ça est très cohérent pour moi. En fait.
Vous êtes anarchiste.
Mais écoute, c'est révolutionnaire, c'est vrai qu'il faut savoir quand même qu'avant que les gays et les lesbiennes, enfin en tout cas certains d'entre eux commencent à militer, à demander le droit au mariage, c'est encore en discussion en France, grosse discussion justement, pour reconnaître d'autres formes de partenariat, et en Belgique, finalement, comme il y a eu le mariage, on ne s'est plus trop posé la question, mais c'est vrai que là, les mouvements gays et lesbiens se sont fort assagis.
Moi, je trouve que vous êtes vraiment l'illustration de ce que je dis souvent, l'hétéro et le PD de demain.
Mais moi, je vais vers une féminité, et je trouve que c'est beau parce que je dépasse des choses, et je trouve que c'est important que l'homme transpirant avec son petit cinglet, il évolue un peu, quoi.
Il est mignon, non?
Oui. Ce que je voulais dire sur la notion de contrôle, c'est que ce qu'on exprime ici, c'est notre façon de vivre le polyamour. Et je pense que nous, on se le dit. Mais c'est vrai que si on extrapole vraiment dans une idée d'autonomie, on pourrait, pourquoi pas, en arriver là, dans un couple qui décide de dire, voilà, moi je veux qu'on soit un couple polyamour. amoureux, ok, on se met d'accord. Et puis, qu'il n'y ait pas, parce qu'on est peut-être des gens, peut-être pas encore tout à fait autonomes, complètement, ou en fait, on a notre autonomie à nous, avec certaines de nos limites à nous. Et je veux dire que ce dont on parle aujourd'hui, c'est notre façon de vivre le polyamour. Et je trouve qu'il devrait y avoir autant de façons de vivre le couple qu'il y a de couples. Voilà. Donc, et je pense pas qu'il y ait une formule polyamoureuse, mais en tout cas, nous, c'est notre manière à nous de vivre avec les limites que l'on a encore, avec tout ce qu'on apprend. Parce que c'est aussi tout un cheminement, je trouve. Tu as parlé des peurs, des angoisses au début. C'est vrai que ça correspond à un cheminement, parce qu'on a tellement ancré le prince charmant, la princesse, oui. Un homme, une femme, que c'est vrai qu'au début, c'est très déroutant. Qu'on se retrouve là avec des désirs, et puis on passe le pas, et puis oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est, on est seul dans cet apprentissage. Et
justement, pour déconditionner un peu les gens, vous avez eu cette idée de créer un site web qui rassemblerait des informations, qui donnerait des références.
C'est quoi l'adresse?
www.polyamour.be.
Très simple à retenir. Donc, poly, c'est P-O-L-Y, hein, pas comme le petit cheval.
Et amour au singulier.
Et amour au singulier. Ah oui, polyamour.
Oui, voilà, donc c'est un site qui est en chantier depuis quelques mois. Comme je travaille dans le du visuel, ben en fait, il y aura aussi des émissions radio peut-être à écouter, il y aura des extraits vidéo, il y aura des textes, il y a une partie aussi un peu plus au niveau référence de livres, parce que c'est assez foisonnant, d'autres sites. Mais donc l'idée n'est pas forcément de faire du copier-coller de tout ce qu'il y a, ce sera d'amener un peu de contenu en plus, avec des possibilités de réagir aux articles. Et puis au-delà de ça, un petit forum aussi, mais ça c'est pas encore prêt.
Bon, on en reparlera certainement dans Bang Bang, je pense.
Ben oui, voilà.
Parce qu'il y a de quoi. Mais merci beaucoup, Sophie. Et Philippe.
Avec plaisir.
Et à bientôt.
Ok, au revoir.
Au revoir.
Le sujet est lancé en tout cas, tant pis.
Ah, voilà.
Merci pour cette introduction.
Mais avec plaisir.
Voilà, pour ceux qui nous rejoignent le dimanche, il faut savoir que Bang Bang, c'est aussi un espace parole.
C'est surtout un espace parole.